L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Après cette année 2020 rythmée à la crise sanitaire, après ce début d'année 2021 qui s'annonce haut en couleur, on a du mal à s'imaginer un futur dans lequel on a envie de vivre. On a du mal à imaginer quelque chose de chatoyant. On se demande quand est-ce que ces crises vont s'arrêter. Et justement, aujourd'hui, je reçois Daniel Kaplan, qui est, entre autres, le fondateur de l'Université de la Pluralité, qui est un projet de réseau mondial consacré aux imaginaires du futur. Il a été, avant ça, le délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération, et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le numérique de manière générale, et donc désormais il s'intéresse aux imaginaires. Et avec Daniel, on parle de beaucoup de choses, c'est pour ça que la conversation est un peu longue. On parle d'abord des crises que l'on traverse, des multicrises que l'on va traverser, mais en réalité, pour comprendre que ce ne sont pas simplement des crises. Et puis, évidemment, comment envisager de les traverser, comment envisager notre vie aujourd'hui, comment envisager un futur dans lequel on se projette, et voir si c'est possible, hein, toutes ensemble. C'est une conversation qui est longue et évidemment hyper intéressante, enfin je trouve en tout cas, c'est pour ça que j'avais du mal à m'arrêter. Donc je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
On va parler aujourd'hui de crise systémique. On va parler de la manière dont on est en train d'évoluer, mais on va aussi parler du futur. J'aimerais comprendre pour vous, donc là on est tout début 2021, comment vous avez vécu cette année 2020 et cette crise sanitaire ?
D'abord, tout en travaillant sur le futur, je l'ai vécu comme tout le monde, hein, donc comme malgré tout un événement non anticipé, inattendu y compris dans sa longueur, c'est-à-dire que voilà, l'idée du cloisonnement du tiers de l'humanité, c'était déjà une idée surprenante, aussi soudaine, l'idée qu'un an plus tard, ça continue vraisemblablement, on est une autre, en tout cas. Après, pour être honnête, c'est une année... Ça s'est avéré être une bonne année pour le travail que je faisais, pour le développement du réseau Université de la Pluralité, alors qu'il est tellement petit qu'il pouvait difficilement souffrir d'une crise, puisqu'il n'y avait pas d'acquis. Mais en fait, on s'est... Tout en ayant, comme tout le monde, marre des visioconférences, on s'est quand même amusé à inventer toutes sortes de formats. On a fait des ateliers de collecte de morceaux d'imaginaire, on a fait des ateliers d'écriture passionnants avec des écrivains, des écrivaines de science-fiction et des gens qui n'en avaient pas du tout l'expérience dans le cadre de projets. On a inventé une formule de publication faite de briquet de broc avec des contributions venues du monde entier. Donc, bon, c'est pas pour ça qu'on a envie que ça dure. Et puis après, c'est aussi une année dont j'avais lu des bouts dans pas mal de romans de science-fiction. J'en ai plus forcément les titres ici. Et donc, quelque part, c'est un peu comme si... des choses se traduisaient dans des morceaux de fiction se traduisaient dans la réalité. Ça m'intéresse en fait pas du tout de savoir si la fiction a prévu quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que peut-être, du coup, ça a aidé à être un tout petit peu plus armé pour se dire, bon, ben, voilà, c'est un élément de contexte. Travaillons dans ce contexte-là.
Il y a Utopia, entre autres, qui a été porté au nu, en tout cas aux États-Unis, donc un livre de science-fiction qui a été écrit il y a une trentaine d'années, je crois, de mémoire, et qui décrit globalement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui y sont retournés cette année, enfin l'année dernière du coup, à cette lecture. C'est vrai que la science-fiction, c'est toujours intéressant parce que c'est des récits. Pour vous, moi j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, qu'on va vivre pas mal de crises parallèles, en tout cas que cette crise sanitaire va générer une crise économique, une crise sociale, qu'on va avoir une crise politique l'année prochaine. On parle et on voit la montée du Bitcoin, entre autres, sans doute une crise financière, et évidemment, par-dessus tout ça, une crise écologique. Et puis aussi une crise paradigmatique, donc une crise des croyances, parce que justement, les gens sont en manque de récits, en particulier dans un monde où on parle d'écologie, on parle beaucoup d'écologie punitive, et les gens ne savent plus très bien justement à quel récit se vouer, si on peut dire ça comme ça. Comment vous voyez les choses sur les années à venir, décennies à venir sans doute ?
Ah, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, donc il faudra peut-être qu'on l'épelle petit à petit. Pour revenir d'abord à cette question de crise, ce qu'on voit un peu se travailler un peu partout, c'est l'idée que ça n'est pas une crise au sens, en tout cas, où il y aurait une situation normale, sans crise, à laquelle revenir. C'est pas pour ça que c'est seulement une conjonction de crise, c'est peut-être autre chose. Ce que peut-être Timothy Norton appellerait un méta-objet, c'est-à-dire un objet qui est tellement gros que d'essayer de l'appréhender avec les notions un peu précise, cette idée de crise, même quand on dit « non, mais la crise, c'est aussi une métamorphose », tout ça pour dédramatiser. Le changement climatique, c'est pas une crise, c'est une transformation des conditions mêmes de la vie. Ça s'appelle pas une crise, c'est autre chose.